Ben, merci beaucoup d'être là, vraiment. Puis merci à Dorothée de m'accueillir avec une thématique comme l'astrologie. En deux, trois petits mots, j'ai découvert l'astrologie d'abord par les signes, j'avais une dizaine d'années. Et puis j'ai commencé à acheter mes premiers livres, j'avais 12 ans, 12 ans et demi. Ça fait donc, là je vais avoir 52 ans, donc je vais fêter mes 40 ans d'astro, ça ne pourra jamais.
Voilà.
Oui, sans amiante, j'espère bien. Épuré en permanence et on continue en permanence. Il y a des personnes de temps en temps qui me posent la question de savoir, mais est-ce que vous y croyez vraiment? Je ne peux pas dire que j'y crois ou que j'y crois pas, ça fait juste 40 ans que je constate. Voilà. Petite présentation de l'astrologie. L'astrologie, alors l'origine de l'astrologie, on ne la connaît pas réellement. Il y a des gens qui disent que ça date des Chaldéens. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près toutes les cultures, à un moment ou à un autre, ont levé le nez vers le ciel, ont essayé de comprendre, ont associé des éléments, des choses de la vie au mouvement des planètes. On connaît toutes les légendes qui courent autour des éclipses. On sait que, par exemple, les Égyptiens regardaient dans le ciel et selon ce qu'ils voyaient, ils priaient après leur dieu pour s'il y avait un mauvais présage. Voilà. En tout cas, toutes ces astrologies-là, y compris la nôtre qu'on nomme astrologie occidentale, sont nées à un moment où on croyait encore que toutes les planètes tournaient autour de la Terre. Donc là, j'ai mis le thème de là maintenant, il y a 10 minutes. Je ne sais pas si tout le monde le voit, peut-être que c'est un petit peu... Ça va, tout le monde voit? Voilà. Donc, il y a des symboles que vous pouvez reconnaître. Ça, c'est en fait donc la photographie du ciel, là maintenant, tout de suite. Si une personne naissait, un bébé naissait maintenant, ça serait son thème de naissance. Donc, ce qu'on voit, il y a des petits signes qu'on connaît. Donc là, ce sont toutes les planètes. Là, on reconnaît le Soleil, Mars, la Lune, Vénus. Bon, je ne vais pas tous vous les faire. Mais on voit que tout ça tourne autour du zodiaque, c'est-à-dire que Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Comme ça, vous savez où vous êtes. On voit donc que ça tourne autour et qu'il y a un élément qui n'est pas représenté, c'est la Terre. Pour une raison simple, c'est que c'est pris donc de la Terre, cette vision-là. Pour moi, ça signifie que l'astrologie est une vision du subjectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas d'événement objectif. C'est la raison pour laquelle il n'est jamais question de faire des prédictions. C'est la façon dont la personne vit et voit les choses. Donc il arrive qu'on aille très très bien dans sa vie, mais que tout s'écroule autour de soi. Ce que moi je vais voir, c'est que la personne va bien, qu'en effet elle est confrontée à des difficultés, mais qu'elle a toutes les armes pour répondre. Ou inversement, une personne, tout va bien autour d'elle, mais elle ne va pas bien. Moi c'est ça que je vais voir avec les planètes. Ça c'est un élément qui me paraît important. Alors tous ces signes, donc les constellations, en fait ça suit un petit peu, je dirais, la roue de la vie. C'est-à-dire que le premier signe, c'est le bélier. L'astrologie n'a rien de scientifique, n'a plus rien de scientifique à part certains calculs. Nous, on se base vraiment sur les saisons, les solstices et les équinoxes. Donc le bélier, c'est le premier signe qui arrive avec le printemps. C'est, si on veut le faire correspondre à un âge de la vie, c'est le bébé qui sort du ventre de sa mère en disant « Coucou, voilà, c'est moi !» Tout seul, qui n'a pas encore tous les éléments pour capter tout ce qui se passe autour de lui. Et au fur et à mesure des signes, on va évoluer dans l'âge, c'est-à-dire taureau, c'est tout le rapport au toucher, à la nourriture, gémeaux, c'est l'acquisition du langage, la marche et tout ça, le jeu, voilà, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, et on arrive au poisson qui est le signe du passage. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on est dans le poisson, c'est pas la fin, c'est le passage pour recommencer, à chaque fois, avec l'acquis et l'expérience de tout le reste du thème, de tout le reste de la roue des signes. Alors, ce bélier qui est le premier signe du zodiaque, il est très important en ce moment, parce qu'il y a Uranus qui est dedans depuis 2011. Uranus, c'est une planète qui a été découverte en 1780, pas très loin de 89, qui est une planète que nous, on associe, je dirais, à des forces de révolution, évidemment, d'ego, de revendication, de nouveauté, l'avenir, les techniques modernes, on y associe beaucoup de choses. Il faut quand même que je vous dise que tous ces petits signes et cette carte du ciel, bien évidemment, ça ne suffit pas à qualifier et à décrire une personne. On est quand même sur du symbolique. Ça, c'est la chose peut-être la plus importante quand on regarde ça. Ça veut dire que chaque élément est un symbole. Il peut donc être vu selon différents axes. Donc, bah, nous, astrologues, on ne fait qu'une interprétation, en fait. Nous sommes des interprètes. C'est pour ça que pour moi, l'astrologie est bien plus proche d'un art, de l'interprétation, au même titre que la musique, ou même, voilà, que ce qu'on voit ici, que d'une science. Il y a peu de rapport avec la science. Ça veut dire aussi que chaque astrologue va avoir sa propre approche, faite de qui il est, et que ce que moi je vous propose là, c'est bien ma vision. Je ne prétends pas faire quelque chose d'objectif, et voilà, c'est ma réflexion. Donc Uranus, cette planète qui représente des forces d'extériorisation, de manifestation, se trouve dans ce premier signe qu'est le bélier. Et en fait, je dirais que ce que ça appelle, c'est une mise au jour de qui on est soi, dans son individualité, dans sa singularité, dans ses spécificités. Donc voilà, et Uranus dans le signe de bélier a cette exigence de nous mettre face à nous-mêmes en tant qu'individus. Dans des choses qui sont assez foudroyantes à certains moments, c'est-à-dire qu'on est en ce moment, pour beaucoup de gens, face à soi, face à sa propre réalité, qui demande énormément d'honnêteté et vraiment être en parfaite cohérence avec soi-même, avec beaucoup de lucidité. Uranus est aussi une planète qui appelle à cette lucidité. Donc les choses qu'on voit poindre de soi, elles peuvent être bien, pas bien. Il n'est pas question d'être dans un jugement de valeur. Il est question d'être dans un accueil de soi, de sa véritable nature. C'est une période où on ne peut pas échapper à ça. Alors certaines personnes ont déjà vécu ça. Certaines personnes sont en train de le vivre. D'autres personnes sont amenées à le vivre. D'autres personnes encore ne le vivent peut-être pas d'une façon directe, mais sont face à des gens qui vivent ça d'une façon très aiguë. Et donc c'est intéressant de savoir qu'il y a ça qui peut se produire pour certaines personnes. Et du coup, c'est aussi une période où il n'y a plus moyen de négocier avec soi-même. Bélier, c'est un signe qui fonce. Le bébé, il a besoin de beaucoup d'énergie pour sortir du ventre de maman. Et Uranus, c'est quand même bien explosif aussi. Tout ça contient une énergie, ben, qu'on constate un petit peu quotidiennement. Et donc, au-delà de la volonté, il n'y a absolument pas moyen d'éviter cette prise de conscience de soi. Mais elle n'est pas négative à partir. Ça peut passer par des petites désillusions, par des déceptions, par des choses. On se dit, bon, je suis comme ça, j'aurais aimé être autrement, mais c'est pas le propos. C'est ok, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ça? Uranus, placé là où il est aussi en bélier, nous demande d'être dans des actes, d'être dans des choses très concrètes. Donc de prendre des décisions aussi en fonction de ces prises de conscience. Et des décisions qui sont très tranchées. C'est-à-dire qu'on le voit bien que c'est une période de radicalité. Il y a des prises de décision un petit peu radicales à prendre qui ne sont pas forcément suivies d'actes tout aussi radicaux, ce n'est pas le propos. On a l'impression que c'est une période où il faut vraiment choisir son camp et que, je vous dis, entre 2012 et on va dire jusqu'à 2016, toutes les personnes qui sont encore à la lisière de certaines choses à pas tout à fait savoir où elles sont à un moment ou à un autre, sont amenées à devoir choisir leur camp. C'est un petit peu radical, mais voilà, c'est appelé comme ça. C'est un tout petit peu, voilà, c'est ça que j'appelle la mise au jour. C'est-à-dire que là, on peut plus se mentir à soi-même et on peut plus, on est très souvent, les personnes dans le travail, par exemple, sont dans des situations où elles aimeraient bien pouvoir encore être un petit peu dans la compréhension et dans la négociation, mais ça n'est plus possible, on n'y arrive plus. Donc ça, c'est un premier élément Uranus, une planète n'étant pas seule, la preuve. Il y a un autre élément très important actuellement qui est Pluton. Pluton qui est en Capricorne. Alors Pluton, il a été découvert en 1930. C'est la planète de la transmutation, c'est la planète de l'implosion, c'est la planète des forces extrêmement profondes sur lesquelles on ne peut pas grand-chose d'une façon directe. Quand Pluton a de l'importance dans la vie de quelqu'un, dans son thème natal, moi je conseille de plus en plus de laisser faire, de laisser l'inconscient faire, et on voit au sortir de ça ce que ça fait. Pluton, il faut aussi lui faire confiance justement pour faire son travail et son nettoyage de fond. Pluton est dans le signe du Capricorne depuis 2009. Pluton a un cycle qui est très très long. Il a un cycle de 240 ans. Ce qui veut dire que la dernière fois, c'est la planète. Enfin, moi, nous, on l'utilise encore comme planète. Je sais que les astronomes ont décidé que maintenant c'était un astéroïde. Ça change pas grand-chose pour nous. De toute façon, des astéroïdes, on en utilise aussi. Voilà, donc c'est. Je ne revendique absolument pas une démarche scientifique de la part de l'astro. Donc, la dernière fois qu'il était en Capricorne, c'était il y a 240 ans. Petite calculette, c'était les années qui ont précédé la Révolution française. Donc, il était en Capricorne également. Le signe du Capricorne, c'est dans la vie, justement sur cette roue de la vie, c'est le moment d'aboutissement de la vie socio-professionnelle. Donc, le Capricorne, on l'associe à une forme de réussite sociale, avec l'isolement que ça comporte. Les sommets ne rencontrent pas beaucoup d'autres sommets. C'est aussi un âge qui commence à acquérir une certaine maturité, c'est-à-dire qu'on l'associe aussi au patriarche. Et sur le plan social, c'est l'administration, c'est la notion du travail, la notion de temps. La planète du Capricorne, c'est Saturne, donc c'est tout ce qui est... Saturne, c'était Chronos, donc c'est le temps, c'est la maturation. Moi, quand j'ai vu Pluton arriver en Capricorne, j'ai bien compris que tout ce qui était les administrations, les grandes... L'Europe, voilà, les grandes... Qu'on appelle ça? Merci beaucoup. Institutions, c'est un mot très bien. Voilà, que les grandes institutions risquaient de subir quelques petits remous. Je me suis dit aussi les monarchies, dans ce qu'elles comportent justement d'assez traditionnalistes. Capricorne est assez associé au traditionnel, sauf que, comme toujours, il y a un début de signe et une fin de signe, et que la fin de signe va plutôt vers l'expression d'une fantaisie. Donc, autant ce que Uranus apporte en Bélier, c'est une mise au jour de l'individu, ce que Pluton apporte en Capricorne, c'est une mise au jour du collectif, des institutions. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle pour tout ce qui se passe en ce moment. Et voilà. Et alors, les petits traits que vous voyez au milieu, en fait, ce sont des angles. Voilà, les rouges, les bleus, les verts, ce sont des angles. C'est-à-dire des angles de, parfois, c'est 0 degré. Certains bleus, c'est 120 degrés, 60 degrés, 180 degrés ou 90 degrés. Ça, par contre, c'est scientifique. Une pleine lune, c'est quand le soleil et la lune sont opposés. Voilà. Ça, ce sont, par contre, des données scientifiques. Et donc là, l'aspect qu'on a entre Pluton et Uranus est un aspect de 90 degrés, qui est quelque chose de... Voilà, il y a des aspects qui sont plus ou moins harmonieux. Le problème, c'est que du coup, ils ne sont pas accompagnés de prise de conscience et de mouvement. Et puis, il y a des aspects qui appellent au mouvement, voilà, qui sont dynamiques. L'aspect du carré est dynamique, c'est-à-dire que, bah, obligatoirement, il y a quelques difficultés avant de pouvoir comprendre ce qui nous est demandé. L'astrologie ne nous inflige pas. L'astrologie, les planètes, en fait, d'une certaine façon, nous questionnent. Moi, j'ai toujours l'impression que, en fait, ce qu'apporte l'astrologie, c'est plutôt une reformulation des questions plutôt qu'une réponse toute faite. Alors après, on peut réfléchir, on arrive en effet à des réponses, mais en premier lieu, c'est une reformulation et une prise de distance avec les questions. Et donc là, on a cet aspect de carré qui fait que, ben voilà, on est en effet dans quelque chose d'explosif, que je vous parlais tout à l'heure de Uranus en Bélier qui nous pousse à nous manifester au moins vis-à-vis de nous-mêmes en tant qu'individus, à nous radicaliser dans nos prises de position. Pluton qui fait bouger des forces un peu profondes, un peu occultes, un peu cachées, et qui tout d'un coup jaillit pour nous révéler certaines choses dont on ne sait pas encore que faire. À défaut de pouvoir faire quelque chose pour les autres et pour le monde, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de soi quand on est en train de vivre ça. Il y avait un astrologue qui s'appelait Marc Berriot, qui était au Canada, qui disait, fin des années 90, que le monde était en train de se couper en deux. Des personnes qui tendaient plutôt vers un monde matériel, d'autres qui tendaient plutôt vers un monde d'humanisme. Il n'y a pas de jugement de valeur. Dans cette histoire de choisir son camp, il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Voilà. C'est au moins être en parfaite cohérence avec soi et aller au bout de ça. Et donc cette prise de décision, ce choix du camp se fait avec énormément de radicalité, soit parce qu'on y est poussé, soit parce qu'en effet à l'intérieur de soi, c'est trop vibrant. Voilà. Maintenant, comment le vivre au concret? Moi, ce qui m'a paru très très important ces derniers temps, dans l'astro, aussi bien qu'en voyant un petit peu la vie, c'était que dans cette radicalité, alors on a tous vu les effets explosifs de la chose, évidemment, Et donc j'ai essayé de beaucoup réfléchir à ça en fonction des planètes, de qu'est-ce qui faisait que c'était explosif, et comment essayer de faire pour que dans cette cohérence, dans la manifestation de cette cohérence intérieure aussi radicale, comment dépasser cette violence. Et là, on a ça ici. Donc on a Chiron et Neptune, qui sont en poisson, donc le signe du passage. Le problème qu'on peut, les choses qu'on peut ressentir sur le plan individuel au cours de toute cette période, ça peut être beaucoup d'angoisse, ça peut être de la peur, ça peut être une énorme fatigue. Il y a plein de gens qui sont revenus épuisés là depuis début septembre, sans qu'il y ait véritablement de raison objective. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé. J'avais dit que je parlerais des animaux, mais en ce moment, il y a des animaux qui ont des symptômes un petit peu étranges et un peu inattendus. Et voilà. Eux aussi, évidemment, captent ce qui se passe, ça paraît logique. Il y a un élément qui est très très important en ce moment, en langage plus ésotérique, on pourrait parler d'un combat entre la lumière et l'ombre. C'est que tout ça fait qu'il y a énormément d'incertitudes. Uranus nous pousse à ne jamais voir trop loin demain. Il y a une invisibilité totale de l'avenir. Quand on demande aux entreprises de faire des business plans sur 3 ans, les entreprises, les entrepreneurs reconnaissent eux-mêmes que c'est devenu absolument impossible. Donc bon, on continue à le faire, mais bon, combien de temps encore? Dans la vie de tous les jours, on a énormément de mal à planifier les choses à trop long terme. On ne sait pas bien où on va, on ne sait pas toujours quoi faire de soi-même. Et puis comme autour de nous, il n'y a pas forcément que des gens qui vont bien, c'est pas toujours facile. Et là, je pense que la première chose à faire pour soi, le premier combat réel à mener, c'est un combat contre la peur. Comme si actuellement, la peur était le plus grand des dangers. C'est-à-dire que la peur crée une brèche à l'intérieur de soi dans laquelle peuvent venir s'engouffrer absolument tout. C'est-à-dire encore plus de peur, une fragilité qui fait qu'on devient bien plus vulnérable face aux événements extérieurs. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire pour soi, au quotidien. Alors, tout ça étant de la théorie, évidemment, après ça, il faut l'appliquer quand on a des poussées d'angoisse, quand on a un gros problème qui se pointe et d'essayer de s'apaiser. Mais c'est vraiment, il me paraît vraiment très très important de ne pas cultiver cette peur parce que en ce moment particulièrement, elle fragilise. Et les choses, on le voit bien, sont extrêmement sensibles de partout. On entend régulièrement pour une place de parking, les gens sont capables de s'assassiner. Donc la sensibilité, elle est là de partout. Les animaux aussi sont dans cette fragilité-là. Inversement, la sensibilité est tout aussi vive pour le positif, quand même. On a terriblement besoin de douceur, de gentillesse, de choses très douces. Donc à commencer par se les offrir à soi-même. Et ça peut être une voie pour combattre cette peur. En fait, on a très longtemps été bercé par énormément de théories sur l'individuation, deviens toi-même, prends ta place, n'aie pas peur, etc. Ce sont des très belles théories. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut passer à l'acte. Comme si ces théories étaient nées pour nous préparer à ce qui se passe maintenant. Une fois de plus, quand je dis maintenant, ça remonte à il y a 2-3 ans et ça dure sur un certain temps, donc c'est voilà, sur quelques années. Donc voilà. Et en plus, il y a des éléments, alors là je suis passée un petit peu vite là-dessus, mais il y a un autre élément important qui est Saturne ici, qui est en Scorpion. Saturne en Scorpion nous permet de revisiter toutes nos racines, au sens de ce que ça nous a apporté, c'est-à-dire comment ça nous a construit. Donc aussi bien nos acquis dans cette vie que les acquis des générations passées, que pour ceux qui sont ouverts à ça, éventuellement les acquis dans des vies antérieures. C'est-à-dire comment aujourd'hui nous sommes le produit de tout ce que nous aurons été, ce qu'auront été nos ascendants avant nous. Ce qui me paraît important, c'est de ne pas rester accroché à ce passé, ce qui va nous filer entre les doigts et pour le moment ça bouge trop. Ce qui me paraît important, c'est de reconnaître que c'est avec ce passé-là que nous sommes construits aujourd'hui. Et donc, une fois de plus, avoir ce regard sur nous-mêmes de comment nous avons été construits. Et puis, Saturne en Scorpion, il a aussi quelque chose d'assez joli, c'est qu'il y a la possibilité d'une mise en commun des ressources. Ça, c'est un point très important. Parce qu'avec ce truc de prise de conscience de soi, on peut se sentir à certains moments terriblement seul. Cette solitude étant subie, choisie, ressentie. Il y a beaucoup de personnes en ce moment, qu'elles soient en famille, qu'elles soient seules. Enfin, voilà, il peut y avoir vraiment ce sentiment de solitude et d'isolement nécessaire pour faire cette rencontre intérieure, mais aussi pour se protéger de certaines choses extérieures qui peuvent être un petit peu complexes. Donc, c'est pas du tout confortable, mais c'est assez nécessaire pour le moment. Et donc, quand on sait que Saturne va venir pour mettre en commun les ressources, on se dit, ouf, c'est pas plus mal. Il y a également ici Jupiter et la Lune noire qui sont en Cancer et qui, eux, nous font revisiter les valeurs traditionnelles de la famille, nous mettent en contact avec notre type de sensibilité et nous mettent aussi en contact avec notre besoin de sécurité. Là où la Lune noire est un tout petit peu coquine, c'est que là où elle est, elle nous demande justement le détachement de ce qu'elle appelle par sa position. C'est-à-dire qu'elle est en Cancer, elle nous donne un appel et un besoin de sécurité, et en même temps, elle nous demande de lâcher ce besoin de sécurité. Alors, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire qu'on a un peu tous l'impression, quand on prend certaines décisions, qu'on est en train de faire un saut dans le vide. Et que voilà, bon, c'est juste ce sentiment de sécurité qui est à revisiter une fois de plus, parce que la sécurité avec la Lune noire, c'est qu'une fois qu'on lâche ce besoin de sécurité et qu'on arrive à être totalement, vraiment dans un détachement, et on va agir dans ce détachement-là, et c'est là que la sécurité va venir à nous. Non, mais elle est coquine, la Lune noire, je suis désolée, c'est comme ça, c'est par le détachement que les choses viennent à nous. Voilà. Et donc là, je reviens à Neptune, Chiron. Neptune a été découvert en 1846, en pleine période du romantisme. C'est la planète qu'on associe au talent de médiumnité, à un certain type de sensibilité. Uranus, c'est la planète de la fulgurance. Neptune, c'est avec les trois petites flèches au sabre, c'est le trident, mais c'est vraiment les antennes qu'on peut avoir. C'est la sensibilité, c'est le rêve. Ce sont les grands idéaux. C'est la religion, c'est le contact avec des mondes plus spirituels. Neptune véhicule aussi ses voiles d'illusion. Et tel qu'il est placé là, donc pas très loin de Chiron, et Chiron qui est juste à côté, donc en poisson, ce qui est très intéressant. Alors Neptune, dans ses très très grands idéaux, au-delà de l'illusion, c'est, moi je l'appelle le dissolvant de l'ego. C'est-à-dire que Neptune demande à ce qu'un idéal exprimé soit totalement purifié de toute manifestation égotique, de toute manifestation d'affirmation. Et c'est là où, par rapport à ce qui se passe entre ces deux choses qui poussent très puissamment entre l'individu qui a besoin de s'exprimer, le social et les institutions qui en effet s'imposent aussi d'une façon un petit peu difficile, c'est là où Neptune nous appelle à ne pas chercher à convaincre l'autre. C'est-à-dire qu'on le voit bien, pour le moment, il y a beaucoup de violence un peu partout. Pourquoi? Parce que chacun arrive avec sa croyance et veut absolument avoir raison et convaincre l'autre. C'est pas l'énergie qu'il faut en ce moment, c'est pas la peine. On va pas y arriver pour une raison simple, c'est que si moi je suis absolument convaincue de quelque chose actuellement et avec ce qui se passe, je suis forcément en face de quelqu'un qui est en train de vivre la même chose que moi avec son choix de camp donc opposé au mien. Et donc plus je vais chercher à convaincre la personne, plus je vais conforter la personne là où elle est. Et donc plus le rapport de force va se contracter et se tendre. Donc ça sert à rien en ce moment. Il y a par contre une autre chose, et quand je vous disais que c'est une période très très sensible, c'est que par contre placer toutes ces choses très puissamment à l'intérieur de soi, et réellement, c'est déjà quelque part les acter véritablement, parce que c'est très sensible, et donc c'est dans cette individuation-là, donc individuation c'est un terme très astro qui veut dire d'être de plus en plus en contact avec l'individu qu'on est et de laisser vivre cet individu avec un niveau de conscience. Et donc, véritablement incarner qui on est, certes, ça peut être dans un premier temps avec un sentiment de solitude et être confronté à l'incompréhension des autres. C'est pas grave, faut être courageux face à ça. Parce que, une fois cet ego dissous, une fois ces revendications, uniquement pour se rassurer qu'on existe et qu'on a raison et qu'on veut embarquer tout le monde avec soi, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Pluton en Capricorne, il est en train de dissoudre, lui, enfin plutôt de faire imploser tous les pouvoirs autocratiques. Donc, il est bien question de ne pas rentrer dans ce rapport de force et soi-même d'être l'autocrate de l'autre en voulant absolument le convaincre. Sinon, ça ne sert à rien. Ou si on entretient le rapport de force. Donc, c'est fatigant, un rapport de force. Ce Neptune et donc Chiron qui est juste à côté, qui est en poisson, on dit de Chiron, il a été, c'est un astéroïde qui a été découvert en 1977. On dit que c'est par la blessure qu'il crée qu'il apporte le soin et la guérison. Voilà. Chiron en poisson, pour moi, alors le poisson est un signe très christique. Il est d'ailleurs en face du signe de la Vierge. Hop. Voilà, la Vierge. Une des choses qui peuvent avoir lieu dans le signe du poisson, c'est qu'au nom d'un idéal, on peut aller jusqu'au sacrifice. Chiron en poisson nous alerte là-dessus. À savoir, pas utile de se mettre en position de victime, pas utile de se mettre dans une position de sacrifice. On ne soigne rien, on ne résout rien en ce moment en étant dans ces postures-là. Donc, ce qui paraît important, c'est en ce moment de revisiter toutes ces choses qui nous emplissent, qui sont des croyances, qui sont une philosophie de la vie, qui sont parfois soumises pour le moment ou jusqu'à présent à des illusions, voilées par des illusions, mais justement en ce moment, les illusions, elles sautent d'elles-mêmes. Derrière une illusion, il y a d'abord une réalité qui peut faire mal, mais ensuite de prendre cette réalité avec, je dirais, une forme d'humilité, une forme de tendresse, la même tendresse qu'on peut avoir pour un bébé. Je suis très heureuse qu'il y en ait un aujourd'hui. Voilà, c'est se prendre dans le creux de la main et de se dire, voilà, je suis comme ça, je n'ai pas d'autre choix que de faire avec qui je suis. Donc c'est les illusions vis-à-vis de soi-même, c'est également les illusions qu'on peut avoir sur le monde, parce que d'une génération à l'autre, notre génération, on en a eu certaines illusions sur le travail qui doit absolument nous rendre heureux, sur un certain nombre de valeurs, le fait de se réaliser, n'est-ce pas? Bon, il y a quelqu'un plus jeune là, mais voilà, on a quand même été bien bercé de certaines illusions sur le monde, les illusions qu'on a sur soi-même. Et derrière ce voile d'illusion, il y a en fait une réalité avec laquelle on peut énormément mieux faire. Faire tout simplement jusqu'au bout de soi-même et avec amplitude. Alors, la préparation, en fait, on est en train de. On sait tous qu'on est dans une période de fin de civilisation et qu'une autre va commencer forcément. Moi, j'ai envie de dire que. Il y en a qui ne vont pas être contents parce que la date, elle n'est pas tout de suite. Pour moi, vraiment, le démarrage de la nouvelle civilisation n'arrivera pas avant 2025. Mais d'ici là, j'enchaîne vite. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'on a du temps pour faire les choses. Si c'était en un jour, ça serait trop explosif, donc c'est bien. Entre-temps, Saturne, il va venir par là, il va aider à enlever les dernières structures qui nous empêchent d'avancer pour réinstaller des structures. Saturne, il aime bien déstructurer pour restructurer ensuite. Donc d'abord, il va finir de déstructurer tout ce qui nous empêche d'avancer pour recréer les structures. Donc ça serait environ vers 2020. Donc il va y avoir des étapes. Et puis il y a une génération qui arrive, je ne suis pas sûre qu'il y en ait ici, mais il y en a qui en connaissent. Ce sont les personnes qui sont nées en gros entre 1988 et 1991, qui est la génération qui va construire là prochainement, qui a beaucoup de planètes ici en Capricorne, des planètes importantes, des planètes lentes, et donc Pluton passe dessus en ce moment. Et donc permet à ces personnes de s'affirmer. Eux, ils sont forts de plusieurs choses. C'est la génération qui a fait les grosses grèves, par exemple, pour vous situer un peu socialement. C'est la génération qui a fait la grosse grève pour le CPE. Je sais plus ce que c'était, mais c'était voilà. Merci. Il y a quelqu'un qui est bien au courant. Voilà. C'était les étudiants qui refusaient une loi. Ouais. Tout à fait. C'est la même génération qui a fait les émeutes en 2000. 5, 5, voilà. Et en tout cas, cette histoire de CPE, de grève, a quand même été très très importante parce que ça faisait, me semble-t-il, extrêmement longtemps qu'un mouvement social n'avait pas donné lieu au retrait d'une loi. Par exemple, voilà. Ça veut dire que cette génération, donc c'est un tout petit, c'est un micro-exemple sur toute une génération, hein. Mais bon, voilà, c'est une génération qui a cette puissance-là, qui a déjà tout digéré, tout ce que nous, au fil des générations, on a construit, tout ce que notre génération à nous, on a essayé de comprendre de nous-mêmes, comme on a eu justement ce besoin de s'individuer, de travailler sur nous, la découverte de la psy, etc., le féminisme, voilà, toutes ces choses qui ont été faites par les générations précédentes. Et ce sont des gens qui sont capables d'une synthèse extraordinaire et qui sont déjà ailleurs. Ça aurait été des gamins pour qui les parents ont eu pas mal de problèmes sur le plan scolaire parce qu'ils avaient déjà compris que ces choses-là étaient dépassées, que le scolaire tel qu'on nous le présentait, l'éducation telle qu'on nous la présentait était obsolète. Et ils sont tranquilles, ces gens-là, ils font leur chemin au-delà de toute logique à nos propres yeux et ça fonctionne extrêmement bien. Et ce sont eux qui ont pour le moment cette force, cette génération-là, qui aura la force de construire là dans très très peu de temps, à mon avis. Bah oui, d'ici 2020, ils auront 30 ans, ils seront là. Il faudra juste rester vigilant parce que justement, comme on est dans le signe du Capricorne et qu'il y a Pluton, et qu'il y a ces forces autocratiques, il y aura forcément des gens qui essaieront de prendre le pouvoir d'une façon un peu violente, mais je pense que les autres aideront à ce qu'ils ne s'installent pas trop. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment une génération à observer avec beaucoup d'intérêt, à mon avis. Bon, après, il y a les 93, 95, mais ça, eux, c'est autre chose. C'est après qu'ils pourront agir avec encore plus de nouveautés, probablement vers justement 2025. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des pouvoirs très contradictoires qui sont en présence. L'individu face à la collectivité. Donc, c'est pour ça que j'avais dit comment réconcilier collectif et individuel. Je vous ai parlé de ce sentiment de solitude, je vous ai parlé de cette nécessité d'inscrire les choses en soi véritablement, même si c'est dans un premier temps dans un sentiment d'isolement. Seulement, dans cette chance que nous offrent aussi les planètes actuellement, il y a la possibilité, à partir du moment où les choses sont vraiment bien installées à l'intérieur de nous, qu'elles rayonnent au-delà d'un volontarisme. Et donc, très étonnamment, les rencontres se font, parfois même encore pendant quelque temps dans l'invisible. C'est-à-dire que les gens qui sont sur la même longueur d'onde, grâce à un Neptune qui est là, quelque part commencent à communiquer. Dans le visible ou dans l'invisible, c'est pas grave. Quand je dis dans l'invisible, c'est pas forcément de façon très ésotérique, mais on peut très bien se retrouver à surfer sur Internet et tomber sur un texte qui correspond exactement à ce qu'on ressent, ou tout d'un coup, voilà. Puis ça peut être très ésotérique aussi, avec des transmissions de pensée et des gens qui vont se retrouver réellement au même endroit, au même moment, avec un hasard incroyable de points communs et voilà. Ces choses-là, elles se font vraiment, enfin, je les constate. Et je pense qu'en fait, cette opposition entre individu et collectif peut être réduite à une condition, c'est que pour le moment, on ajoute un S à collectif. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à s'inscrire dans le collectif, mais qu'on cherche à trouver son propre collectif en laissant les autres collectifs vivre leur vie, puisque la confrontation, je vous le disais tout à l'heure, pour moi, amène obligatoirement à l'explosion en ce moment, et que qui a envie de venir dans ce collectif-là, il viendra par son propre trajet qui sera véritable et profond. Voilà. L'autre chose, c'est que justement, face à tous ces pouvoirs qui s'expriment, Pluton est donc la planète du pouvoir très souterrain. Le pouvoir au sens politique, au sens domination, peut être transformé si on lui enlève juste son article et qu'on transforme le substantif pouvoir en verbe pouvoir, c'est-à-dire faire ce qu'on peut. Voilà. Et ça, c'est la phrase de Romain Rolland que j'adore, qui est le héros et celui qui fait ce qu'il peut. Et puis, ben voilà, on en est là aujourd'hui, on fait ce qu'on peut, mais il faut le faire sincèrement. On n'a pas le choix, on ne peut pas le faire autrement que sincèrement vis-à-vis de soi. Et dans au moins cette ouverture intérieure, en attendant l'ouverture extérieure si elle n'est pas déjà faite.